Europe 1.
8h13, votre invitée Sonia Mabrouk ce matin est soutien d'Emmanuel Macron.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Zineb El Razoui.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Pour faire barrage à Marine Le Pen, beaucoup invoquent les valeurs républicaines. Vous êtes soutien d'Emmanuel Macron depuis déjà quelques mois. Est-ce qu'à votre tour aussi vous convoquez ces valeurs? Et puis de quoi s'agit-il? Car on ne sait plus très bien tant le mot parfois est utilisé à tort et à travers.
Oui, je pense que pour faire barrage à l'extrême droite, il faut faire appel à des valeurs et à des valeurs supérieures aux prétendues valeurs ou au modèle qui est proposé par l'extrême droite. Ce que cela signifie, c'est que Madame Le Pen, qui bien sûr a récupéré la laïcité, etc., alors que l'on sait que l'école politique qu'elle représente a toujours été plutôt anti-laïque, Madame Le Pen, aujourd'hui, nous parle de laïcité et nous dit qu'il faut défendre la laïcité au nom d'une tradition judéo-chrétienne française, presque d'un ADN, de quelque chose d'épidermique presque. Et moi, je trouve que ce projet-là, il est juste le miroir inversé de ce que les anti-laïcs nous proposent. C'est-à-dire qu'eux aussi nous parlent de repli, nous parlent d'épiderme, nous parlent d'identité particulière.
Elle n'est pas universaliste, Marine Le Pen ?
Non, non. Et justement, ce que je disais, c'est que on ne peut pas défendre la laïcité à partir de particularisme. Enfin, la laïcité n'est pas un particularisme, c'est un universalisme émancipateur qui ne nie pas les particularismes, mais qui nous permet de s'élever au-delà des particularismes. Or, vous voyez, par exemple, quand on parle de valeurs judéo-chrétiennes, ces valeurs, elles existent, elles sont bien sûr l'histoire de la France, mais elles ne peuvent pas fédérer tout le monde, tout le monde ne peut pas s'y reconnaître dans la France
et
d'aujourd'hui.
Et en quoi est-ce qu'elles sont antinomiques de la laïcité que vous placez donc face à ces valeurs judéo-chrétiennes, Zineb El Razoui?
Je pense que si on fige l'identité de la France dans une seule couleur, on va dire, dans un seul narratif historique, de facto, on exclut une partie de celle-ci du pays. Je pense que ce que nous apporte la laïcité, c'est que l'on puisse tous s'identifier à ce pays avec les différents parcours qu'on a eus. Moi, par exemple, je suis française par le métissage, je suis née à l'étranger, j'ai grandi à l'étranger, d'un père marocain, d'une mère française. Je me sens africaine aussi parce que je suis française. J'ai écrit aussi le narratif de pourquoi je suis française. Et c'est sûr que je ne le suis pas parce que je suis blanche, catholique et romaine, comme l'identité fantasmée de la France défendue par Madame Le Pen.
Madame Le Pen, que vous classez dans l'extrême droite, en tous les cas comme extrémisme, est-ce que vous pensez que les Français, en particulier les plus fragiles, les Français des classes populaires, sont encore sensibles à ce genre d'argument aujourd'hui ?
S'ils ne le sont pas, c'est dommage, parce que une élection présidentielle ne se fait pas uniquement sur des promesses de mesurettes ou sur des soldes de promesses. Vous voyez, par exemple, quand j'entends Madame Le Pen dire que l'âge de la retraite ne bougera pas, moi je me dis, je serais elle, je promettrais carrément la retraite à 35 ans, parce qu'à ce tarif-là, ça ne coûte rien, une mesure qu'on ne finance pas.
Vous êtes très ironique.
Autant faire plaisir encore plus. Non, ce que
vous avez vu qu'Emmanuel Macron aussi sur ce sujet-là, recule pour certains.
Il promet de la souplesse là-dessus, c'est sûr. Donc il promet une certaine souplesse, mais il me semble qu'il est beaucoup plus réaliste dans ce qu'il dit. Il dit c'est pas que je ne veux pas. Hein, on aimerait tous partir à la retraite plus tôt, mais il faut quand même être raisonnable et il faut financer ça. Au-delà des mesures, au-delà des réformes promises, je pense que ce qui est important dans une campagne présidentielle, c'est la vision globale.
Mais alors justement, vous vous engagez, Zineb El Razoui, dans la bataille politique, et dans une bataille politique, il y a surtout des coups à prendre. Pourquoi, selon vous, Emmanuel Macron est-il le seul à vous entendre, à pouvoir conduire une nouvelle fois la destinée de la France ?
D'abord parce qu'il a un bilan Les votes qui sont allés à Emmanuel Macron lors de ce premier tour sont allés à lui, non pas sur des promesses, mais sur un bilan. C'est aussi la différence avec Madame Le Pen. Deuxièmement, il est aujourd'hui concrètement le candidat qui peut battre cette école politique qui malheureusement se fait de plus en plus importante en France. On n'a plus une extrême droite, mais plusieurs. Et lui, il est aujourd'hui le candidat le plus crédible qui propose une sortie par le haut à cette crise-là.
Il a changé pour vous, Isabelle Razzouy, il y a quelque temps. Je vais pas vous sortir toutes les phrases qui ont été prononcées, notamment par vous, mais c'est vrai que vous parlez d'une forme de mépris, parfois même de cynisme. C'est du même homme dont il s'agit. On l'a vu hier parler à des Français, essayer d'expliquer, vous venez d'en parler, la réforme des retraites. Est-ce que vous estimez qu'il a changé, qu'il n'y a plus ce cynisme et ce mépris que vous qualifiez avant?
Je ne sais pas s'il a changé et je ne sais pas si on change fondamentalement. Je vais reprendre sa propre formule à lui. Il a appris. Il a appris. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un président sortant qui s'est formé au poste, on va dire, pendant 5 ans. Et ça serait peut-être bien aujourd'hui, justement, de le reconduire à un deuxième quinquennat.
Donc c'est l'expérience, le principal argument.
Profiter de cette expérience. Et d'ailleurs, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde qui connaît le tumulte qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas non plus... je pense que c'est aussi de la sagesse que de faire le pari de la stabilité.
C'est un vote important pour l'international. Vous qui vous avez vécu à l'étranger, vous voyagez beaucoup, c'est un signal important aussi à l'international?
Écoutez, moi je pense que la politique étrangère est une dimension majeure à prendre en compte lors d'une élection présidentielle parce que dans les institutions de la Ve République, la politique étrangère reste quand même une chasse gardée présidentielle. Et là, nous avons quand même une candidate qui est personnellement endettée à hauteur de plusieurs millions d'euros à une banque d'oligarques proche de Poutine, qui a quand même tout l'air d'être aujourd'hui un criminel de guerre, qui a aussi financé sa campagne.
Je précise qu'elle s'en défend. Mmh.
En tout cas, ce sont des faits avérés, c'est la vérité. Elle peut s'en défendre, elle peut dire oui, mais personne d'autre n'a pu me prêter. Quand même, aller trouver l'argent chez Poutine, ça a quand même une signification. Sa deuxième campagne, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, c'est quand même chez Monsieur Orban qu'elle trouve en partie ses financements. Monsieur Orban qui vient d'être réélu pour un quatrième mandat.
Démocratiquement.
Et qu'elle est la seule dirigeante européenne avec Monsieur Poutine à avoir félicité. Je pense qu'il faut quand même que l'on prenne conscience de ça. Un pays avec l'histoire de la France, avec la tradition diplomatique de la France, qui est quand même une puissance morale dans le monde, qui est la patrie des droits de l'homme, mettre la France entre les mains d'une femme qui est le suppôt de Poutine et qui va faire un virage à 180 degrés par rapport à la tradition diplomatique française et faire de la France le toto de Poutine, ça c'est quand même un péril majeur qui nous guette. Il faut en prendre conscience.
On entend votre argumentaire sur ce sujet dans ce domaine, Isabelle Razzouy. Il y a aussi une partie des Français qui lui reconnaissent une crédibilité sur des thèmes régaliens. On connaît votre engagement et vos combats aussi contre l'islamisme, pour l'universalisme, vous l'avez précisé. Et plus largement, sur ces thèmes dits régaliens, les opposants à Emmanuel Macron estiment qu'il n'est pas suffisamment clair sur ces sujets. En quoi ils ont tort?
D'abord, je pense que la plus grande catastrophe morale et philosophique qui pourrait guetter la laïcité, c'est d'entériner une fois pour toutes que la laïcité est l'apanage de l'extrême droite. Il est extrêmement important.
Personne n'en a le monopole, mais pourquoi voilà. Emmanuel Macron, selon en tous les cas ses opposants, n'est pas clair sur ce sujet, selon vous? Est-ce que c'est un inconvénient ou alors vous estimez qu'il va changer, qu'il peut changer, qu'il a peut-être changé?
Il a beaucoup évolué sur cette question entre le début et la fin du quinquennat. Emmanuel Macron a quand même fait une loi pour conforter les principes républicains, ce qu'on appelle la loi contre le séparatisme. Il a parlé de séparatisme islamiste, il a parlé de terrasser l'hydre islamiste. C'est sous son mandat qu'on a enfin pu fermer les officines de la division et de la haine que sont le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, ou l'association du salafiste défenseur des talibans Driss Siamdi, l'association Baraka City. Il y a eu des fermetures de mosquées radicales, etc. On est allé très très loin, à la fois dans la dialectique, dans les mots et dans les actes. Je ne dis pas que c'est suffisant. Il reste énormément
mais
de choses à faire.
Mais vous dites que la lutte s'est renforcée.
Voilà. La lutte s'est renforcée. Emmanuel Macron a complètement pris la mesure de l'importance de ces sujets-là. Et puis, il faut quand même dire que la majorité présidentielle est loin d'être, est loin d'être monolithique sur ces questions-là. Elle est très hétéroclite. On a eu des
elle est
députés.
En même temps, c'est ça ?
Voilà. Il y a aussi eu le en même temps. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus important que des gens comme moi aillent au sein de cette majorité et affirment davantage la ligne laïque et universaliste.
Bien, on vous entend, mais justement, le fait que la majorité ne se soit pas vraiment opposée, par exemple, c'est l'un de vos sujets au port du voile lors des compétitions sportives, le fait que ce ne soit pas entériné dans la loi, est-ce que c'est le signe d'une clarté, selon vous, ou d'une ambiguïté qui peut
c'est
perdurer
le signe, c'est le signe du en même temps. Parce que sur cette question, par exemple, on a eu Madame Moreno qui a dit une chose, mais il faut dire que dès le lendemain, on a eu Gabriel Attal qui a dit que la position du gouvernement n'était absolument pas de défendre le voile dans le sport. Madame Schiappa également a réaffirmé cette position. Et puis Madame Moreno est finalement revenue sur ses propos. Donc ça représentait peut-être ce qu'elle pensait, elle, à titre individuel.
Mais on peut être en même temps sur ce sujet si important?
Pour moi, non. Pour moi, ce sujet demande la plus grande fermeté, la plus grande clarté. Et c'est pour ça que je pense que le combat à mener aujourd'hui pour défendre ces questions-là est à mener au sein de la majorité. Parce que, vous voyez, quel est le choix qui nous est offert ? C'est le choix de n'avoir aucune prise, aucun moyen de changer les choses. Le choix de défendre ces sujets au sein de l'extrême droite, c'est-à-dire finalement avec M. Zemmour ou Mme Le Pen, ou le choix de défendre ça dans les institutions et auprès de démocrates.
Marine Le Pen est crédible sur ces sujets ?
Pour moi, elle ne l'est pas. Pour moi, elle ne l'est pas parce que, par exemple, l'une des récentes mesures qu'elle a promises, elle a promis l'interdiction du voile dans l'espace public. Alors, moi, je crois que mon...
Ça vous entend depuis des années, c'était plutôt... ça va dans votre sens.
Écoutez, mon aversion pour le voile et pour le symbole qu'il représente, elle est connue de tous. Je pense, d'ailleurs, je suis partisane de l'interdiction du voile pour les petites filles, mais je ne pense pas qu'il soit sérieux, ni qu'il soit souhaitable d'interdire le port du voile tout court, c'est-à-dire y compris dans l'espace public, car
pourquoi
comment peut-on justifier... comment peut-on... par exemple, s'il pleuvait, là, tout à l'heure, et que je décidais de mettre un foulard pour protéger mon brushing, est-ce qu'alors je risquerais de me faire interpeller par...
Je ne sais pas si comparaison vaut raison, quand même, sur ce genre de sujet.
Interdire le voile dans l'espace public, c'est un peu ça. C'est-à-dire,
vous dites que ce n'est pas réaliste, faisable.
Voilà. Et si par exemple, et pourquoi pas interdire le port de toute forme d'objet, de casquette ou de... Enfin, ce n'est pas faisable.
Mais sortons du terrain de la faisabilité sur le terrain de l'idéologie. Ça vous choque? Parce que ce matin, dans La Voix du Nord, par exemple, Emmanuel Macron dit « Le projet de Marine Le Pen est un projet de fracture de la société. Quand il y a encore quelques jours, elle dit qu'on n'aura plus le droit de porter le voile dans la rue. Ce n'est pas la République. » Est-ce que vous vous dites que ne plus porter le voile dans la rue, ce n'est pas la République? Au-delà de la faisabilité du projet.
Moi, je pense que... mes positions sont connues sur ce sujet. Le mot voile et république dans la même phrase.
C'est pour
me
ça
gêne,
que j'interroge votre soutien à Emmanuel Macron sur ce point-là.
Mais force est de reconnaître que tout l'enjeu de ce combat et tout l'enjeu que nous posent les islamistes qui ont pour caractéristique de vicier profondément la société, la démocratie, c'est justement de lutter contre leur idéologie sans menacer nos acquis, sans menacer les droits de l'homme et tout en respectant le droit. Interdire aux femmes dans l'espace public de porter un foulard dans un pays libre et démocratique comme la France, eh bien finalement relèverait de l'obligation, on va dire, vestimentaire. Et je pense que c'est une dérive démocratique dangereuse que de commencer à faire ce type d'interdiction. Moi, je suis plutôt partisane de l'application de la loi de 1905, c'est-à-dire que le voile n'a rien à voir, n'a rien à faire, je veux dire, dans la fonction publique. On ne le porte pas quand on est enseignante, on ne le porte pas quand on est policière, quand on est fonctionnaire. Et moi, je suis même hostile, je suis contre le port du voile par les parents accompagnateurs des enfants parce que j'estime qu'ils accomplissent une mission de service public. Mais interdire de le porter dans la rue, vous voyez, on ne peut pas non plus interdire tout ce qu'on n'aime pas.
Zineb Al-Razi, on l'entend depuis tout à l'heure, depuis le début de cet entretien, vous êtes une femme engagée avec son libre arbitre, nul ne peut en douter. Toutefois, la politique est ainsi faite que je vais vous poser directement la question. Qu'espérez-vous obtenir en échange de votre soutien, Emmanuel Macron ?
J'espère qu'il gagne. J'espère qu'il gagne parce que pour
rien
moi,
ne vous
est...
a été promis. Vous n'espérez rien. Vous vous engagez simplement pour recevoir des coups en politique.
Bah les coups, ça fait des années que je les reçois, donc j'ai quand même.
Je me suis endurci. Voilà.
Exactement. J'ai les reins solides, on va dire. Hein. J'ai l'habitude de prendre des coups. Ça fait des années. Ça fait presque toute une vie hein, que je suis dans le débat public, que je défends des valeurs.
Mais vous avez franchi une barrière en allant vers la politique.
Absolument. C'est la première fois de ma vie que je rejoins un homme politique, que je le défends et que je fais même campagne pour lui. Et vous savez quoi? Je le fais par conviction. Je ne pense pas que Emmanuel Macron est un candidat sans faille, sans défaut. Je ne pense pas qu'il soit parfait. Qui le serait? Qui l'est?
Oui, mais ce qui nous intéresse, pourriez peut-être lui apporter votre expérience dans ces domaines dits régaliens.
Absolument. Et d'ailleurs,
donc, espérez-vous en échange? Je pose de nouveau ma question.
Écoutez, je n'ai jamais rien espéré en échange de mon engagement depuis mon adolescence. Vous voyez, ça fait des années, comme vous dites, que je prends des coups et des coups durs. C'est un combat. S'opposer à l'islamisme est un combat sale. C'est un combat où on prend beaucoup de coups. C'est un combat où on prend des menaces. C'est un combat qui entache aussi les proches. Et je l'ai fait contre rien. Je l'ai toujours fait de façon bénévole. Il n'y a pas de raison que ça change aujourd'hui. Cela ne veut pas dire, ceci étant, que je ne suis pas au service de mon pays et que je n'irai pas là où je serai la plus utile à ce
pays. Ça veut dire, Zineb El Razoui, je vous dis à la prochaine fois, peut-être en tant que, sous le nom, j'allais dire, de Zineb El Razoui, journaliste, mais peut-être aussi en tant que député ou membre du gouvernement, si Emmanuel Macron est élu.
Il est trop tôt pour en parler aujourd'hui.
Voilà. Nous aurons l'occasion de nous revoir.
Merci à vous.
Merci Zineb El Razoui, merci Sonia Mabrouk. 8h29, Mathieu Bock-Côté dans un instant.